France Culture. Une mémoire radiophonique.
C'était en 2008, chez Fayard, que Philippe Bordas, écrivain et photographe, publiait Forcené. Dans Le Monde, à propos de ce livre, Dominique Le Guillou écrivait alors « Les chefs-d'œuvre de littérature sportive sont rares, difficiles à écrire. » Dans Forcené, sorte de testament amoureux du cyclisme, Philippe Bordas cherche à frôler l'exploit. Et dans Libération, sous la plume de Jean-Louis Letouzet, on pouvait lire « Forcené de Philippe Bordas est le plus beau livre funèbre écrit sur le cyclisme ». Philippe Bordas, quant à lui, présentait son livre ainsi. Le cyclisme n'a duré qu'un siècle. Ce qui s'appelle encore cyclisme et se donne en spectacle n'est que farce, artefact, à la mesure d'un monde faussé par la pollution, la génétique et le biopouvoir. Il s'agit donc bien d'un peu plus que de cyclisme dans Forcené, comme on pouvait l'entendre à travers ce que confiait Philippe Bordas à Alain Weinstein dans « Du jour au lendemain ». Un entretien sur lequel planait l'ombre du journaliste écrivain du cyclisme Pierre Chani, auprès duquel Philippe Bordas a fait ses classes à l'équipe. Un entretien qui s'ouvrait sur le souvenir de l'autre journal de Michel Butel et sur le vide, le manque laissé par la disparition de ce journal auquel Philippe Bordas a collaboré. Du jour au lendemain, Philippe Bordas à propos de Forcené, une émission diffusée la première fois le 17 avril 2008 sur France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Philippe Bordas, qui publie Forcené, chez Fayard. Le cyclisme n'est pas un sport, c'est un genre. Les genres déclinent et disparaissent comme les civilisations. Le cyclisme est mort en tant que genre. Forcené n'est pas votre premier livre, Philippe Bordas, mais j'ai pas l'impression que vous en ayez écrit tant que ça.
C'est pas le premier livre sans images. J'ai écrit une épopée africaine qui s'appelait L'Afrique à point nu.
Qui était Seuil.
Au Seuil, un collage de textes et d'images.
Ce qu'on peut dire encore, si on veut présenter une biographie complète, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, on va dire, vous avez collaboré à ce journal mythique, l'autre journal, le journal de Michel Butel.
Voilà, et d'ailleurs dans ce livre qui sort aujourd'hui, il y a un seul texte qui est hors temps, qui vient d'un temps ancien, des petits journaux extraordinaires qui s'appelaient encore, que Michel Butel a fait, c'est un texte sur les pavés du Nord, où j'avais tenté une généalogie de l'enfer comme appartenant vraiment au Nord, ce que refusent les gens de là-bas, en me fondant sur les textes anciens. Et donc l'autre journal, quand j'avais 24 ans, est apparu comme une concrétion d'images et de poésie parfaite, n'advenant pas dans le livre, mais chaque semaine dans la presse. Donc un miracle presque quotidien qui aujourd'hui est complètement interdit.
Un journal comme ça, ça ne peut plus voir le jour, c'est impossible.
Mais j'ai cru à l'époque que c'était la norme, puisque je débutais en faisant des textes et des images pour Michel Butel dans ce temps-là. Mais ce temps est révolu, puisque quand l'autre journal a cessé, pour plein de mauvaises raisons, finalement, il n'y avait plus rien à faire. C'est-à-dire qu'on ne se relevait pas le matin en se disant « je vais peut-être découper quelque chose dans Libération, quelque chose dans Le Monde, quelque chose dans l'autre journal ». C'est-à-dire que la parole et des philosophes, et des poètes, et des artistes n'a plus place dans les médias, sauf dans une forme... sociologique ou nihiliste, finalement. La puissance poétique n'a plus cours. Donc Butel a fait quelque chose qui s'apparenterait à un geste héroïque dans un temps qu'il n'était plus.
Peut-être un jour, Butel nous fera la surprise de sortir un nouveau journal qui sera...
Mais il faut vraiment l'espérer, parce que bien qu'étant seul et malade, mais toujours amoureux des mots et dans un état de volonté enfantine, de toujours dire les choses, ce qui est hors de tout cynisme, j'espère qu'il pourra le faire. Donc il garde sous le coude une armée des ombres, de gens qui finalement se sont intégrés ou désintégrés, mais qui restent, malgré toutes les brouilles liées au temps et aux passions, qui restent fidèles à son projet.
Il y a des passionnés endormis qui vont se réveiller.
Bon, des maquisards du verbe, des engloutis, il y en a quelques-uns, mais sur plusieurs générations, c'est ça qui est beau.
Peut-être que l'autre journal, c'était un genre aussi qui, comme le cyclisme, a disparu.
Voilà, c'était le genre quotidien, c'est-à-dire l'évidence de la parole, coordonnée de façon domestique, au souci du jour. Donc c'était la politique, c'était les derniers livres, et puis d'un seul coup une analyse de Deleuze sur McEnroe. Donc Deleuze n'est plus là, McEnroe n'a plus d'équivalent. Donc finalement aujourd'hui, par exemple, sur Federer, qui est l'équivalent de McEnroe, qui a vraiment un génie spécifique, il n'y a plus de parole ni d'écriture possible pour décrire le geste. Et j'en viens à quelque chose qui est vraiment important, qui ne tient pas à la vérité du journalisme, mais à celle de la chronique, c'est le lien du geste avec le verbe et le corps. Donc le chroniqueur n'est pas l'historien ni le journaliste, il est censé, dans l'instantané, comme Saint-Simon, dire le vrai du temps, mais lui donner légitimité dans la durée et pour l'avenir. Donc en fait, Federer, quelque part, fait quelque chose de génial, mais n'existe pas, parce que personne n'a écrit ce qu'il faisait. Mailer a écrit Ali, donc Ali a un surcroît d'existence. Dans le temps des cyclistes anciens, Anquetil ne répondait jamais, ne résumait jamais l'exploit qu'il venait de faire. Il disait toujours qu'il devait lui-même, avant de répondre, avoir lu Pierre Chany, le grand chroniqueur de l'époque, pour savoir ce qu'il avait fait. Et l'écrit, de façon antique, disait l'exploit. Donc si l'écrit n'a pas sa puissance propre, l'exploit n'existe pas et la télévision est annihilée. C'est important, ça.
Forcené, c'est un acte de décès.
Forcené, c'est-à-dire, c'est le testament amoureux d'un garçon qui n'est plus jeune et qui n'a pas pu être le champion cycliste qu'il voulait être, mais qui garde exactement le besoin de dévotion à ce qu'ont été les plus grands champions, qui n'étaient pas que des champions, mais des gens qui inventaient un geste et un phrasé spécifique qui a collé à l'histoire de la France. Et donc, n'ayant pas eu la force physique de refaire ce que Coppi ou Anquetil avaient fait, parce que ça, c'est une question quasiment divine, il faut que la surnature soit appelée sur vous, ce qui n'a pas été mon cas. Donc, j'ai fait une équivalence de façon pongienne. J'ai essayé de mettre toute ma vitesse, ma rapidité pour produire un démarrage, l'équivalence d'une incarnation verbale mais rapide, pour essayer de leur rendre hommage.
Là, on n'est pas au ras des pistes, hein. Vous dites que Coppi, par exemple, achève le cyclisme comme Joyce et Faulkner achèvent le roman.
Voilà, il y a vraiment une forme optimale. Je ne crois absolument pas à la question du progrès et au déchaînement temporel qu'implique le progrès. Mais le roman a peut-être aussi épuisé une forme de durée dans le temps, comme le cyclisme. Donc le cyclisme est quelque chose de beaucoup trop dur et maximaliste, correspond à un moment de la civilisation comme le roman. Le cyclisme a été autre chose qu'un sport, c'était beaucoup trop difficile pour n'être qu'un sport. Ça a été une allégorie d'autre chose. Le roman est né à un moment spécifique et s'effondre à un moment spécifique. Globalement, on peut considérer que le roman s'effondre avec la Deuxième Guerre mondiale de façon extrêmement violente. Tout ce qui se passe après est un sursaut. Mmh. Donc les sursauts de l'après-guerre sont très très épisodiques. C'est Céline qui meurt peu de temps après, quelques autres. Finalement, le cyclisme aura duré qu'un siècle, mais surtout, historiquement, sera né au moment où la question de la surnature était éliminée, la question du sacré était éliminée de la vie des hommes. C'est-à-dire que y a un énorme électrochoc qui est la commune, donc tout le peuple est broyé, et poétiquement, et politiquement. Ça, c'est un choc qui n'est toujours pas assimilé. Peu de temps après, Rimbaud arrête tout. 1886, les illuminations. Peu de temps après, Nietzsche devient fou. L'insensé dans le Gai Savoir décrète la mort de Dieu et demande que de nouveaux jeux sacrés soient peut-être éventuellement créés pour se substituer à ce défaut d'action et de grandeur. 3 ans plus tard, naissent les premières énormes courses cyclistes sorties de rien, qui sont des hallucinations physiques, qui sont des courses de 1200 km, Paris-Brest-Retour. Des choses nées de rien, mais nées de la folie humaine, donc d'un invariant de dépassement. Bordeaux-Paris, 600 km. Et tous ces gens vaincus par la répression de la commune, qui hésitent entre le cabaret, l'anarchisme, la gangstarisation, finalement, pour certains, se retournent vers le vélo, où ils imposent un maximalisme littéraire et physique.
C'est pas dans les livres que vous avez appris à aimer le cyclisme ?
Non, c'est dans le don. J'étais un... Aujourd'hui, où en fait, il faut absolument tout incarner en sociologie. Moi, je suis vraiment peut-être le seul écrivain des cités. Je le dis franchement de façon drôle, parce que je ne suis pas affecté de la langue des cités que je maîtrise, mais que je n'utilise pas comme par avant. Donc j'ai passé mes 20 premières années dans les cités à Sarcelles, qui était une sorte d'endroit entièrement créé pour les pauvres, par l'architecture et puis par la pénurie culturelle. C'est-à-dire qu'on avait des habitations de basse qualité, des nourritures de basse qualité, des lectures de basse qualité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller plus loin que, même c'est très méchant ce que je vais dire, mais que Prévert et Saint-Exupéry, le reste, il fallait le ratisser en maraude, ni plus ni moins. Donc là, dans cet endroit où il n'y a rien, aucune expression physique ni intellectuelle, où le corps est dans un dénuement qu'on retrouve que dans les films expressionnistes du néoréalisme italien, c'est-à-dire Delon dans l'Éclipse, c'est mon enfance à Sarcelles dans des immeubles juste construits. Et d'un seul coup, j'ai un oncle qui est un vieux mec du peuple, qui arrive avec 2 énormes volumes, qui pour moi sont de la dynamite, ça s'appelle l'histoire, la fabuleuse histoire du cyclisme. Donc déjà, fabuleuse, un mot inconnu là-bas. Histoire, on est dans le vide total créé par les architectes après-guerre. Et le cyclisme. Et donc, il y a eu une explosion d'amour, moi, de façon livresque, pour copie. Et j'apprends par cœur tout le texte de Chagny, c'est quand même... le Saint-Simon du vélo, mais c'est 2000 pages, je connais toutes les légendes par cœur, et je décide, de façon livresque, sans savoir ce que vaut mon corps, de devenir coureur. Donc, je me dis que Chagny, qui n'était que ce chroniqueur, avait une puissance d'intercession spécifique qui est arrivée à moi. Et puis, le temps a fait que j'ai, sans c'est un petit aparté, mais sans qu'on me le dise, j'étais bon en classe, mais on était de la viande à CAP finalement. Donc un jour, je décide, ayant eu le bac, de reprendre ma carrière. Et je suis sur le quai de la gare avec mon vélo et mon sac, et j'ai décidé de partir en Corrèze, d'où viennent mes parents, pour reprendre le cyclisme, étant bon grimpeur. Et la prof de philo me voit, elle me dit, mais vous allez où, Bordas? Je lui dis, je vais préparer normal. Elle me dit, mais normal. Et en fait, c'était les instituteurs, l'école normale des instits. Elle me dit, mais vous êtes fou? Mais donc, je ne savais pas que j'étais le meilleur en philo en français, selon ces critères. Elle me dit, il faut faire hypocagne, mais je n'avais jamais entendu ce mot. Donc, je me retrouve avec mon vélo de course dans les classes prépa. Et puis, le temps a passé, et puis finalement, j'ai tout arrêté. Et un jour, je suis arrivé la nuit au Faubourg Montmartre. Et dans la pénombre de l'équipe, il y avait la chevelure blanche et les clopes fumantes de Pierre Chagny. Et je l'ai rejoint.
Mais qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve pour la première fois sur un vélo après avoir... découvert cette passion dans un livre?
L'illusion de croire que parce qu'on est un peu maigre et brun et flanqué, on a les jambes de copie, c'est terrible. Parce qu'on se regarde dans le miroir de la salle de bain et on regarde ses jambes et on se dit peut-être que... Donc j'étais bon grimpeur, mais c'était pas suffisant. Il y a tout un tas d'autres conditions. Et là, si on n'est pas élu, et là on se rapproche peut-être d'une conception ancestrale de la poésie, si rien ne se dicte à vous, il se passe rien. Mmh. Donc c'est pas un sport, c'est autre chose.
Vous êtes allé voir courir les autres, alors les grands.
Voilà, une fois que j'ai bien perçu mes limites et que j'ai arrêté de pleurer, j'ai décidé de... Ça, c'était pendant l'été 84, j'ai décidé d'aller venger Bernard Hinault. Donc Hinault, qui était le dernier grand champion à la jonction de l'antique et de l'effroyable dictature de Bernard Tapie, puisqu'il a travaillé avec lui, et, a été moqué par Laurent Fignon, qui se considérait comme l'intellectuel. Donc j'ai décidé d'aller venger Hinault, c'est-à-dire de, moi, amener ma volonté littéraire forcenée pour venger Hinault. Il n'avait pas besoin de moi pour se venger, mais quand je suis arrivé à cet exploit, pour moi le plus important, j'ai couvert les 5 dernières semaines de sa carrière, jour pour jour, jusqu'aux dernières minutes, j'ai démissionné. Donc j'avais fait ce que je voulais faire.
Copies, Philippe Bordas, rien que des copies.
Voilà, vous avez presque tout dit. Il y a un moment où le temps s'arrête. Avec copies, ça a été pour beaucoup de gens d'une génération vraiment une expression qui dépassait la limite du sport. Il y a eu un aspect absolument envoûtant de ce personnage qui avait connu la guerre, qui était le meilleur avant-guerre, qui a été prisonnier, qui a fait la guerre du mauvais côté. Et alors que son temps était déjà complètement brûlé, se retrouve en 1946 à décider d'accomplir son destin, sachant qu'il a très peu de temps. C'est la première fois qu'il y a une telle compression du temps sur le dos d'un champion. Et il va vouloir exprimer son geste de façon extrêmement précise. Il va décider tout de suite, en 1946, pour la première course de la première saison de la reprise après-guerre sur un sol complètement chaviré par les bombes, dans Milan-San Remo, de partir quasiment dès le départ, c'est-à-dire d'esquiver la foule, d'esquiver les adversaires. Donc, Coppi invente une solitude dans la course. Donc, il invente autre chose. Et ça a frappé tout le monde. Et il ne voulait pas de la lutte. Il s'est mis d'emblée dans le geste qui signale les plus grands écrivains, c'est-à-dire lutter seul, inventer son phrasé et ne pas attendre pour voir qui est derrière. Donc il n'a rien attendu. Et justement, Chani, qui se retrouve, lui, grand maquisard, sorti des privations et de la guerre dans Milan-San Remo, m'a raconté cette chose et l'a écrit. C'est absolument envoûtant. C'est que Coppi était tellement attendu par tout le peuple italien qu'il était en tête. Mais les voix des supporters se propageaient plus vite que son sillage. Et arriva Coppi, la voix des supporters avait 2 kilomètres d'avance sur l'arrivée du corps. Donc c'est quand même quelque chose d'étrange. Et après, tout s'arrête. Et finalement, après Coppi, c'est comme Mohamed Ali, après le combat de Kinshasa, on sait que l'histoire de la boxe est achevée. Tout ce qui arrive après est fini. Mmh. Donc l'histoire de la boxe est en répétition, là aussi. Et Coppi achève l'histoire du cyclisme parce qu'il outrepasse la question de la difficulté, et surtout il invente un langage quasiment métaphysique avec les cimes, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'avaler une dernière portion de col pour aller plus vite que les autres, il se pose dès le départ seul face à la montagne et il traverse des massifs entiers seul. Et là vraiment on retrouve quelque chose qui tient à Ulysse, à des choses anciennes, et les gens de toute classe sociale ont été envoûtés par ça. Mmh.
Donc le cyclisme, c'est l'histoire d'un siècle.
Exactement, c'est l'histoire d'un siècle qui naît sur les cendres de la Commune et qui s'achève au moment où, littérairement, il n'y a plus de possibilité de dire l'exploit physique. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une évacuation du corps dans la littérature et où la force a réellement disparu de l'écriture, et ça, moi, je le date très étrangement et avec le recul très précisément dans les années 84, où plusieurs choses se sont passées. Peut-être que Benjamin, à sa façon, à certains moments, a dû chercher à l'époque de Baudelaire des conjonctions bizarres. Il s'est passé plusieurs choses. Un, le cyclisme a devenu, sous le règne de la littérature, le maillot jaune avait toujours les initiales d'Henri Desgranges cousues sur le maillot. Et Desgranges voulait lier de façon épique la littérature au verbe. On découle les initiales du maillot, et c'est le moment où Hino aussi passe la main. Hino, qui était le grand champion qui n'avait besoin d'aucun dopage surnaturel pour gagner. C'est le moment aussi donc d'un effondrement de l'héroïsme, d'une dissociation du geste physique et d'une écriture possible du geste. C'est le moment où, pour moi, il y a un effondrement littéraire en France absolument consommé. Donc, je pense aussi qu'il y a une fusion qui n'est perceptible qu'aujourd'hui entre, finalement, Giscard et Mitterrand. Il y a une assomption de l'argent souverain à cette période-là, et l'arrivée d'une classe moyenne qui ne supporte pas deux choses. Un, le peuple pauvre, dont le cyclisme était l'expression. Deux, toute aristocratie qui puisse naître du peuple ou venir d'ailleurs. Donc, même en littérature, dans ces années 84, il y a le spectre de Tapie qui rachète Hino, mais dans le même moment, pour moi, le dernier choc, par exemple, ça a été La Vie minuscule de Michon. Michon arrive comme un champion, il faut dire les choses. D'un seul coup, il redensifie la langue qui était effondrée depuis Céline. Il passe sur 30 années de délibération linguistique, où finalement on cherchait des stratégies formelles, mais où la force littéraire ne pouvait pas advenir parce qu'on avait oublié la puissance physique. Donc Michon remet ça en place, mais Michon n'est pas fêté comme un champion. Michon sombre tout de suite, est reconnu des plus lettrés, mais sombre dans la misère et est abandonné. Et d'un seul coup, il y a une middle class qui surgit dans le cyclisme, comme Laurent Fignon, qui surgit en littérature, comme Delerme ou Pennac, qui finalement ne veulent plus de cet apparat de la misère, mais ne veulent pas non plus de l'aristocratisme absolu de la littérature ou du geste sportif. Voilà.
Mmh. On rentre dans le spectacle.
Exactement. Exactement. Et tout ce qui maintient en vie est bradé. Et on rentre, pour moi, dans le spectacle qui a été analysé comme spectacle, mais que de façon plus africaine, moi, j'analyserais comme un double sacrifice. Je sacrifie des classes les plus pauvres, qui s'effectuent de façon total depuis 25 ans et aujourd'hui et à son paroxysme, et sacrifice du poème, je dis ça sans emphase. Aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que aussi la poésie devient un objet de misère, devient associée à la pauvreté et mérite sacrifice de la même façon. Donc il y a une association du dénuement économique et de la pénurie verbale. Il y a une étrangeté en ce moment qui se passe.
Mmh. Et les poètes ne se dopent pas.
Moi, je pense que les plus grands avaient des moyens exceptionnels. Bon, je pense que Céline s'est dopée, Proust s'est dopée aussi.
À propos du cyclisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, vous parlez, Philippe Bordas, d'artefacts à la mesure de notre monde, c'est-à-dire un monde faussé par la pollution, la génétique et le biopouvoir. Ce que vous appelez comme ça.
Voilà.
Ce qui déclenche votre révolte et par contre-coup, votre passion.
Oui, c'est très étrange. Je me suis senti dans une position d'huissier qui établit un testament pour les familles et qui en même temps pleure les morts. Donc il a fallu faire les deux en même temps. Et ce qui est très difficile, c'est que finalement, aujourd'hui, bon, le cyclisme est vraiment mort. Je vois pas comment ça peut repartir, vu que finalement, c'est déchaîné sur les cyclistes qui sont toujours les cobayes, les grands essais de la génétique de demain. Donc ça, il faut le dire clairement, on n'arrive pas encore à vraiment le dire, mais tous les essais se font sur des corps élus par les dieux. Les cyclistes que vous voyez en activité sont tous des corps d'exception. Et donc, les grandes tentatives, les grands essais qui se font sur eux. Donc, ils sont encore dans une position sacrificielle, mais tout est perdu. Je disais vraiment que autrefois les dopages étaient dérisoires et les exploits énormes. Aujourd'hui, c'est les dopages qui sont énormes, les exploits dérisoires. Et on ne sait pas ce qui se passe, puisque seule la télé peut en rendre compte. Mais globalement, le dopage est le reflet d'une mutation génétique globale que tout le monde souhaite. Quand on lit Houellebecq ou l'eugénisme diffus qu'il y a dans Little, on sait très très bien ce qu'il y a derrière. Donc la logique du vélo va encore avec la logique littéraire. C'est la fin de l'héroïsme, de toute façon, correspond à l'effondrement de la langue. Ça, je pense que Céline et Proust et quelques autres ont un comportement héroïque, qui était celui de certains champions. C'est bizarre, non ?
Donc c'est ça que vous avez voulu faire en écrivant ce livre, Les Forcenés, Philippe Bordas, qui paraît chez Fayard, c'est entrouvrir quelque chose de ce monde en train de disparaître avant la fin, et puis mettre un peu d'ordre parmi ceux que vous appelez les forcenés, ces champions totalement insensés.
Voilà, alors vous avez exactement dit le mot. C'est 88, je ne sais plus quand, le Gai Savoir paraît. La personne qui donne le récitatif de la mort de Nietzsche chez Nietzsche, c'est l'insensé. Donc, est-ce qu'il y aura une définition identique entre insensé et forcené, sachant que forcené, ce n'est pas du tout un mot dont l'étymologie a rapport à la force, mais c'est fort, F-O-R-S, qui veut dire hors, et signe de l'allemand ancien, hors de sens. Donc, entre insensé et forcené, pour moi, il y avait un grand rapport. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, parce qu'il y a une volonté de maîtriser le destin sans maîtriser tout à fait le sens. Et je pense que ça, c'est vraiment le secret de la littérature. Et ce qui a été très très dur, moi je suis arrivé en 61, mais je suis arrivé dans des années où finalement on voulait maîtriser uniquement le sens. Et la question du destin de la littérature, le destin du corps, a été en suspens. Donc par rapport à ma génération, ce bouquin-là fait allégorie. C'est une histoire du vélo, c'est aussi pour moi un manifeste littéraire qui met le corps sur sa ligne de vitesse.
La mort du cyclisme, ça devrait s'entendre comme la mort de Dieu ?
Si le cyclisme a été une dernière tentative de rénover le sacré ou de montrer un invariant humain, le jeu sacré dont parlait l'insensé, ça a été exactement ça. Et ça a été ça, on s'en est aperçu quand les premiers cols ont été mis au menu des supplices. Et la première personne qui a vu tout de suite ça, c'était Alfred Jarry. Avant tout le monde. Avant même qu'un premier col soit monté, Jarry a écrit ce texte de la Passion du Christ, considéré comme une course de côte, où tout est dit. Et Jarry refuse le symbolisme, refuse l'effondrement de la langue et la saturation de la langue qui correspond à un effondrement historique, et veut se placer hors jeu. Il va partout à vélo. Mallarmé l'aime beaucoup, mais il décide, comme manifeste littéraire, et comme hommage ultime à Mallarmé, pour lui dire « je vais suivre jusqu'au bout », il va à l'enterrement de Mallarmé, non pas habillé dans la belle redingote d'Octave Mirbeau ou des autres, mais dans une tenue absolument souillée, et il arrive à vélo, à Valvin, couvert de poussière. Donc là, il y a un geste qu'une personne va voir tout de suite, c'est Duchamp. Et la roue emmanchée de Duchamp 1913 est une suite directe d'un objet qui est un prolongement du corps, un prolongement ni minéral et osseux du corps, mais qui peut faire sens sur un ailleurs de la religion perdue.
Donc la mort du cyclisme correspond à la perte de substance de la langue et à la disparition de la poésie.
C'est ce que je pressens, hélas, mais avec un peu de recul, j'ai fait une sociologie rapide, j'ai parlé de ces années 84, où finalement toutes les prophéties de Debord se sont réalisées, où l'économie s'est regroupée au centre, en éliminant le bas-peuple et toute possibilité aristocratique. Je ne parle pas d'aristocratie au sens d'une domination d'Ancien Régime, mais uniquement l'invention de l'excellence. L'aristocratisme, c'est l'excellence. Donc le double refus s'est opéré de cette façon-là. Et j'attends le retour d'une littérature qui soit liée à l'écriture du corps, sans quoi la destinée patine. On ne peut pas rester dans le formalisme ou le nihilisme, qui sont les modes de survie littéraire d'aujourd'hui. Thank you.
De figure en thème, Philippe Bordas, à la lecture de votre livre, Les Forcenés. Bon, des figures, vous en avez cité déjà quelques-unes. Il y en a d'autres, Anquetil, par exemple. Hein, vous dites que si vous deviez écrire un dictionnaire, pourquoi pas d'ailleurs, vous commenceriez par Anquetil, évidemment. Ouais, et pour vous, Anquetil, c'est le Glenn Gould du cyclisme.
Ouais, voilà, c'est ça qui m'a frappé. Glenn Gould qui peut répéter mentalement des variations et arriver au piano. Anquetil a établi un palmarès surnaturel qu'il a décidé à l'avance pour l'établir ensuite. Et donc, avec Anquetil, là, on rentre dans l'ordre de la partition. C'est-à-dire que il a une grâce invraisemblable, mais dont il a pleinement conscience. À 19 ans, il arrive dans la vallée de Chevreuse pour une course qui est la plus longue, la plus difficile. C'est un contre-la-montre. On est seul face au vent dans les côtes de la vallée de Chevreuse sur 140 km. Il a 19 ans, il est absolument translucide. Il a des veines bleues sous les yeux comme un tuberculeux. Et il bat tous les plus grands coureurs de l'époque qui sont à la force de l'âge de plus de 10 minutes. Et Pierre Chagny, mon ami chroniqueur à l'époque, le voit. Et quand il descend de vélo, il dit une chose. Je sus que je n'avais pas affaire à un humain. C'est très étrange. Il n'avait pas apparence humaine. Et Anquetil, n'ayant pas apparence humaine, dégage la plus grosse force qui s'est jamais vue peut-être dans l'histoire du vélo, mais dont qu'il perçoit tout de suite et qu'il ne va pas utiliser tant pour gagner de l'argent, s'installer pour bourgeoisement, que pour établir, mais lui de façon instantanée, une noblesse un peu chevaleresque qui peut faire rire parce qu'il avait ce côté qu'elle a Mistral, à Lucky Blondeau, les Ford Mustang. Mais il invente dans le pédalage et la façon de gagner ses courses une façon qui n'a jamais été vue, qui était extrêmement fine, extrêmement régulière. C'était une mécanique, c'était entre... c'était comme un maître du sonnet et en même temps avec des décharges d'énergie surnaturelles où on voyait la rage. Donc c'était... on n'avait jamais vu ça. Et surtout, il a tout décidé à l'avance.
Mmh. Échappé à sa condition ?
Il a échappé à sa condition d'humain, ce qui est bien différent. C'est ça qui est déprimant pour tous les sportifs d'aujourd'hui qui finalement passent à la télé, signent des contrats, rentrent dans une banalité surnaturelle, ils sont effondrants. Non, Anquetil a échappé à l'humain et il a toujours essayé, peut-être en forçant le trait, mais de montrer quelque chose comme une surnature. Et bon, il est mort jeune. Et les Belges les plus énormes ont voulu le tester en venant l'inviter en Belgique pour boire des quantités d'alcool surnaturelles, ce dont il s'est acquitté en les regardant dans les yeux, en écrasant les verres en cristal, en mangeant le verre, en repartant en voiture. Il était dans un rêve. Et il est mort, très très jeune. Et il n'a pas voulu s'intégrer autrement. Il vivait dans un château, il avait racheté le château de Maupassant. Voilà, point.
C'est un sport ou un art, le cyclisme ?
C'est le sport le plus effroyablement bête qui puisse exister, puisqu'on vous demande juste de pousser. Sauf que quand on vous demande de surmonter la pluie, le vent, les montagnes, les descentes, la peur, la surfatigue, vous vous trouvez confronté à des choses que vous pouvez relire uniquement dans Sophocle ou Homère. Et après, je demande qui aujourd'hui peut. Donc peut-être simplement les grands écrivains quand ils ont été affrontés à un défi colossal. Saint-Simon, Proust, Céline qui veut renouveler son... Quand Céline dit « je vais crever le plafond une deuxième fois », il dit les mêmes choses qu'Anquetil. Et il le fait. Mais le prix à payer physiquement est aussi énorme. Alors j'ai toujours eu cette confusion, j'ai toujours hésité. J'ai jamais su si ma métaphore du vélo devait s'attacher à l'écriture ou inversement. J'ai pas d'autre mode de lecture que le vélo pour comprendre la littérature.
Vous dites ce que c'est que... grimper ou descendre, d'ailleurs. Dans les deux cas, c'est un art. Grimper, c'est un peu plus même qu'un art, c'est un sacrifice comparable à celui du Christ.
L'ascension, c'est vraiment l'essence du vélo. Donc les grands grimpeurs, sont vraiment les plus grands cyclistes. Tout le reste tient de la lutte pour le sprint, se sortir de la cohue, de l'effervescence de la société. L'ascension du col, le Ventoux contre la montre, bon, Pétrarque l'avait fait à pied, mais c'est vraiment quelque chose qui engage des forces surnaturelles. Et les cyclistes ont peur. J'ai recueilli des paroles de cyclistes de 91 ans qui m'ont raconté que dans le nuage, ils s'étaient pris dans l'orage et dans les éclairs, que le vélo était entièrement électrifié et qu'ils ont été transportés de peur, mais ils étaient encore attirés par aller plus haut. Donc voilà, il y a Sloterdijk aujourd'hui, le philosophe, qui finalement essaye d'élaborer une pensée de l'invariant humain, ce besoin de se gazéifier, ce besoin d'ascension permanente, qu'on a voulu faire disparaître. Donc la volonté d'éradiquer la religion était aussi ça. Moi, je ne suis pas pour une restauration religieuse, mais il y a un invariant humain.
La montagne, c'est le lieu de l'heure de vérité.
Voilà, donc à l'exclusion de tous les autres lieux qui sont les lieux d'expression de la rhétorique. Donc c'est-à-dire du trucage sophistique. Les sprinteurs sont des truqueurs, sont des sophistes purs et durs, des bluffeurs. Et donc le grimpeur est obligé d'inventer un langage plus puissant que celui qui sert à abuser les autres. Et ce langage-là, il n'a pas à en référer au reste du peloton, il en réfère à lui-même et à la montagne.
Mmh. Au contraire de l'ascension, la descente, c'est une ivresse. Et il y a des descendeurs.
Voilà, donc pour faire ce livre, j'ai fait un travail souterrain de journalisme nocturne. J'ai appelé tous les anciens champions que j'ai vraiment usés par téléphone. Et voilà, donc le plus grand champion pour moi de descente, c'était un garçon du Sud qui avait une petite courbe de ventre, qui n'avait jamais trop essayé de maigrir, qui s'appelait Lucien Aymar, et qui lui arrivait à descendre à 130 km/h les pentes du Mont Ventoux. Et qui avait perçu quelque chose, peut-être presque aussi beau que les grimpeurs, mais qu'il a été le seul à... Et il n'est jamais tombé. Donc il part avec son secret.
Vous parliez de votre enfance au début de cette émission, Philippe Bourdas, à Sarcelles. Aujourd'hui, le cyclisme n'attire plus les gamins des cités ?
Non, pas du tout. Et justement, j'ai voulu même montrer, puisqu'on parle tout le temps des cités, mais on ne veut pas expliquer trop de choses. Mais moi, quand je fais du vélo, je suis tout le temps insulté par les gamins des cités qui sont mes petits frères, qui me traitent, alors ça c'est très beau, de Jalabert et de Chabert. Alors ça, l'insulte Chabert, ça a été vraiment l'insulte balsacienne qui me réduisait au rang de proto-français. Ça a été une peine énorme parce que quand j'étais dans les cités, on était tous mélangés, juifs, arabes, vietnamiens, et il y a eu une osmose d'Arche de Noé. Et aujourd'hui, le vélo est vraiment le lieu de la peine et du hard labour insoutenable. Et donc les footballeurs savent qu'ils auront des beaux mannequins à la maison avec leur Mercedes. Et les femmes des cyclistes seront toujours plus moches et ils auront moins d'argent. Donc l'équation pour les gamins des cités est terrible. Donc j'ai essayé de trouver les mots que j'entends et qui sont les mêmes, mais qui disent ces choses-là, les mots des cités.
Vous suivez les courses à la télévision aujourd'hui ?
Non, je n'ai pas la télévision, donc j'allais chez Darty avec tous les clochards et les vieux sans le sou pour regarder les courses, mais c'est vrai que ça sentait pas très bon parce que les gars avaient pas de salle de bain, et donc à la fin, ils nous ont vraiment virés. Et donc maintenant, je dois dire que je ne regarde plus rien.
Donc vous êtes rentré chez vous à Vélib ?
Non, à pied, non, le Vélib, ça va pas assez vite. Je veux bien faire un effort cycliste, mais c'est ce que disait Jarry, j'ai besoin de l'émotion esthétique de la vitesse dans le soleil et la lumière. Et avec le Vélib, on est confronté à une pesanteur urbaine. Mais c'est assez beau, il y a une petite lutte pour que les gens retrouvent ce goût du vent. Mais à quel prix, quoi ? Je sais pas si ça va durer.
Forcené, le livre de Philippe Bourdas est publié chez Fayard. Du jour au lendemain, Michel Mestre, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir. Thank you.
Cette émission a été diffusée la première fois le 17 avril 2008 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.